De retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Myriam Baya Arfaoui pour son document.
Mon petit pavé dans la main.
Voilà, ton coup de pierre tourné.
Ma petite balle dans la lucarne.
Ouais, voilà, c'est ça. Cinématographique. Ça, je l'ai lu nulle part. Hein. Sur aucun truc de présentation de camionneuse, le coup de pierre tourné, tout ça, je ne l'ai pas vu, toi. Ce n'est pas un vocabulaire qu'on utilise trop pour présenter ça.
Non, je gardais ça pour Canal Sud.
Dans Camionneuse, il y a une astuce un peu technique, l'ouverture du cadre. Alors, peut-être que tout le monde ne le voit pas, ne le perçoit pas. Moi, j'ai tout de suite pensé en fait au Mother de Xavier Dolan, évidemment. Et voilà, à l'occasion de la présentation, tu disais qu'il y avait plein d'interprétations et c'était plutôt amusant pour toi de voir comment les gens se l'appropriaient, tout ça. Donc moi, j'ai évidemment mon opinion, qui fait écho avec évidemment ce qui me constitue et puis mon imaginaire politique. Donc c'est quoi ? Moi, j'ai eu l'impression en fait que le cadre, en fait, il se réduisait quand elle travaillait et qu'elle s'ouvrait à la fin de ses journées quand elle entrait dans un mode voilà, de connexion avec sa famille, famille choisie, loisirs, occupation militante. Comme si le cadre racontait ça aussi, c'est-à-dire un monde du travail plus contraint, serré, peut-être normé. Et puis un dehors qui s'ouvre et qui libère un peu.
Quand même, j'adore cette interprétation.
En vrai, y a... Tu la places un top 5 des interprétations.
Bah oui, c'est ça, c'est qu'il y a plein d'interprétations.
Voir, mais...
Et tu sais, moi je les note, comme ça, ça me fait ouais, des réponses bien. À pourquoi j'ai fait ça et que comme j'ai dit.
Tu la gardes celle-là ou...
Ah, celle-là, je la garde, oui, carrément. Merci. Carrément, elle est hyper pertinente. Mais c'est ça, c'est qu'il y a ce truc de je fais les choses intuitivement, du coup, c'est difficile de dire en avance pourquoi on le fait et que vraiment je fais les choses intuitivement et avec la contrainte. Et que moi, dès le départ, il y avait la contrainte de. C'est un film qui était censé exister en 16/9. Moi, je n'ai jamais écrit des films autrement qu'en 4 tiers. Je ne sais pas penser autrement qu'en 4 tiers. Et c'est ce que je dis tout le temps, c'est ce truc de je grandis en quartier, etc., où il y a des carreaux comme ça, qui sont les fenêtres des barres de bâtiments, qui commencent à me faire « Oh, mais waouh, à l'intérieur de chaque carreau, il y a telle vie, telle vie, telle vie, telle vie, telle vie. » Et pour moi, c'est les premiers films que je me fais dans la tête, tout en carré et en vertical. Comme la géographie de mon paysage. Et je dis souvent, peut-être que si j'avais grandi en campagne sur des espaces horizontaux, etc., peut-être que j'aurais fait du 16/9 ou du scope ou d'autres formats un peu
tu
plus
larges. Tu penserais en scope.
Sans doute. Du coup, il y a d'abord ce truc un peu transgressif de j'ai une contrainte de 16/9, mais je suis sûre, mais je veux du 4 tiers, et si j'avais choisi tout, aurait été en 4 tiers. En fait, comment ça peut se justifier, se raconter, etc., etc. Et du coup, on a trouvé avec la monteuse Yasmina Jaffry, qui est incroyable, des manières de l'utiliser aussi comme un outil narratif et pas juste esthétique, en se racontant des choses autour de ça. Mais ce que je préfère, je crois, c'est ce que les gens se racontent, parce que j'adore cette idée que d'une contrainte et d'une intuition naissent 40 000 explications possibles selon les points de vue situés. Et qu'en fait, ça fait que « Ah ben, j'ai eu raison de faire ça. »
Carrément. T'as souvent raison en plus, non ?
Ah, je sais pas, je crois que tout le monde dirait pas ça, mais je fais souvent comme si j'avais raison. Ouais.
C'est le principal, il faut toujours faire semblant, quoi, tu vois.
Voilà.
Et alors moi, j'étais projectionniste, tu vois, et cette histoire de format, ça a toujours fait partie de mon boulot. Tu racontais les vieilles légendes, tu vois, dans les milieux des projectionnistes, que Kubrick, et c'est vrai, parce que j'ai projeté des Kubrick, filmait exclusivement à 1.33. Pourquoi ? Parce que lui, son idée, c'était que dans toutes les cabines du monde entier, il allait y avoir la fenêtre de projection 1.33. Pour pousser un peu le délire, je me disais, alors est-ce que le carré, ce serait pas un truc un peu internationaliste, tu vois ?
Ah bah grave. En tout cas, c'est un truc, je sais pas, moi en Tunisie, j'ai encore une télé cathodique et ça ressemble plus, c'est du format 4 tiers, c'est pas un format horizontal, c'est plus un format carré. Je crois que même au-delà de ça, tu vois, c'est que j'aime trop l'idée de penser vraiment le format... Pas juste comme un truc esthétique, comme un truc à narratif, certes, mais aussi comme un truc de, en fait, ça va être, c'est comment qu'on veut que ce film soit diffusé, et c'est comment qu'on a envie qu'il existe, et c'est comment que ça peut faire du sens aussi de le faire exister dans le plus d'espace possible.
Une nouvelle fois, je me souviens, il y avait le 1.66. 1.66, c'est le format européen. 1.85, format américain. Et je me disais, alors, ce serait quoi le format du Maghreb, par exemple, toi ?
Je sais pas. Moi, je pense qu'on a un travail à faire sur la parabole et que peut-être on aurait des films ronds à faire, mais je sais pas encore.
Un format rond, ah ouais.
Pourquoi pas,
ouais,
en vrai.
Excellent, ouais, ouais, grave.
Mais je trouve que les formes de format, et notamment le rond, n'a pas été assez exploité parce que quand même, les objectifs, c'est rond, c'est circulaire,
ouais,
et on
fait.
Est passé sur du carré. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans ce sens-là.
Ça c'est les blancs, ça. Toi, c'est le truc de...
Faut que ce soit carré.
Ouais, voilà.
Faut qu'il y ait des lignes.
Faut que ce soit différent de ce qu'ils n'ont pas inventé, ouais. Toi. Ah, c'est carré, bon, bah, on va faire rond, nous, tu vois.
Bah, en vrai, ça rejoint un peu une question, moi, que je me pose tout le temps sur comment filmer les corps non blancs et les couleurs de peau, notamment, et tout. Ah, bah, c'est ça, c'est que moi, j'ai découvert, du coup, que quand même, les caméras et les optiques étaient calibrées sur un neutre peau blanche. Mmh, et que, du coup, je me suis retrouvée plein de fois avec, bah, moi, je filme des personnes non blanches, et du coup, avec des problèmes de comment t'exposes, comment tu éclaires le plus justement possible, etc., etc. Et qu'une de mes missions dans la vie serait d'aller voir un peu c'est quoi les caméras et les optiques qui se fabriquent dans les pays du Sud pour arriver à trouver des choses qui soient le plus représentatif possible de bah juste de nos carnations, de nos peaux, etc. Et qu'en fait, du tournage, c'est-à-dire de la manière d'éclairer à la manière de filmer, aux outils qu'on a, enfin là vraiment c'est une question technique et c'est une question d'outils, jusqu'à l'étalonnage, le calibrage sur les écrans d'ordinateur, etc., tout est fait pour que nos peaux ne soient pas celles de la réalité et qu'il y ait un truc de blanchir en permanence. Et ça, ça a été vraiment des gros questionnements, notamment sur Camionneuse avec l'étalonneur, on en a pas mal parlé. Mais après, on est heurté à la problématique technique. Il y aurait tout un outillage à penser. Mon hypothèse, c'est qu'il faut que j'aille voir Bollywood, le cinéma en Afrique, etc., où il y a peut-être des caméras qui sont fabriquées sur place ou alors des outils là-bas qui sont plus à même de raconter les non-blancs. En tout cas, que les outils qu'il y a ici en France et en Occident sont hyper limités sur comment est-ce qu'ils nous représentent. Et là, c'est vraiment c'est du racisme technique. Enfin, je ne sais pas quoi dire. Tu vois, il y a un truc qui est... Tu peux faire toute la théorie que tu veux, mais techniquement, c'est pas fait pour...
C'est une nouvelle, enfin, c'est une notion, toi, le racisme technique. Voilà. Donc, les traits d'union, toi, il est loin de s'arrêter. Je me souviens d'un coup, un texte de rap de Hayam. Bon, on peut citer Hayam, ça, tu.
On
ça,
peut carrément
ouais,
citer.
Ou ça va, te demande pas de valider, mais juste, non. Bon, on peut citer Hayam, super. Et ils ont une punchline autour, voilà, de la géométrie. D'ailleurs, je crois que le titre, c'est La géométrie de l'ennui.
Avec la bordure, dur de marcher droit dans un pays tordu. Pétri de talent ou doué à l'école. On est ces mètres carrés qui tournent en rond dans l'hexagone. On se fait pas d'illusions, on flirte avec la bordure. Dur de marcher droit dans un pays tordu. Pétri de talent ou doué à l'école. On est ces mètres carrés qui tournent en rond dans l'hexagone. Ce qui marche au travers exige de toi que tu files droit. Tous les jours chasser l'ennui sur les marches. On nous a dit de s'accrocher, de penser à l'avenir, de se donner les moyens, de choisir ce qu'on voulait devenir. Mais c'est pas si facile, aucun minimum garanti. À Bac plus 6 au RSA, on sait que rien n'est écrit. Aucun nom gravé sur les bancs avant que le sang ne s'en mêle. On a beau retrousser les manches ou se donner de la peine. Ils veulent du mouton, et gras qui répond à l'appel. Et si l'un d'eux prend son envol, il lui coupe les ailes. Cherche pas de tremplin sur la route, ils l'ont rempli de colle. Le tri est fait sans que tu le saches sur les bancs de l'école. La donnée est faussée, tout autour trop de fossés. Et l'étrange impression que tout ici n'est fait que pour t'enfoncer. Ils tiennent les rênes et nous font tourner en rond, accrochés à leur siège, leur privilège et nous pris au piège. On continue à espérer le paradis, coincé à vie dans la géométrie de l'ennui. On se fait pas d'illusions, on flirte avec la bordure. Dur de marcher droit dans un pays tordu. Pétri de talent ou doué à l'école.
On est ces mètres carrés qui tournent en rond dans l'hexagone.
On flirte avec la bordure. Dur de marcher droit dans un pays tordu. Pétri de talent ou doué à l'école. On est ces mètres carrés qui tournent en rond dans l'hexagone.
Moi je comprends toujours pas pourquoi les profs de français font pas étudier ça en poésie, mais passons, ça sera un autre combat.
Bon, rien d'autre à faire. Comment ton travail avec la monteuse t'a permis d'ordonner ces images, de poser une structure, une narration, une distance peut-être aussi? Comment t'as trouvé à deux ce rythme, ce souffle, sans trahir l'intimité filmée?
C'est trop bien comme question, comme ça, ça me permet de parler de Yasmina. Yasmina Jaffré, du coup, la monteuse du film, bah, pour moi, en vrai, elle m'a sauvé la vie. Moi, je pense que j'ai compris c'était quoi le travail de monteuse en travaillant avec Yasmina, et qu'en vrai, il y a un peu ce truc de... Elle me ramasse. Enfin, moi, je suis dans le jus, etc. Je dois tenir la face devant tout le monde en tournage avec le personnage. Je passe 3 ans à mettre mes émotions complètement de côté, à vraiment tout faire passer. À la fin du film, je disais à Zina, mais en fait, et à mes potes, c'est comme si j'avais eu une amoureuse hyper intense, alors que c'est pas mon amoureuse, c'est censé être la personne avec qui je fais un film, en parlant de Zina. Et vraiment, qui a pris absolument toute la place dans ma tête. Et le seul endroit un peu de... vulnérabilité au final que j'avais, où je pouvais un peu lâcher les épaules et mettre les choses en dialogue, c'était dans la salle de montage avec Yasmina. Et Yasmina, en fait, je serais pas dire, parce que j'avais jamais travaillé de cette manière-là et que j'avais pas travaillé avec de monteurs-monteuses au final, jamais. Il y avait ce truc où elle a l'expérience et du coup, très vite, elle m'a dit « Ok, Arte, c'est quoi qu'ils attendent ? Toi, c'est quoi que tu veux ?» Et en fait, elle avait déjà la géométrie dans sa tête de comment on allait faire cohabiter les choses, etc. Et il y avait un truc hyper intuitif dans ce qu'on se proposait, etc. Et qu'en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'on était vraiment... Elle n'était pas un endroit d'exécutante. C'était pas quelque chose de « moi, je veux un truc » et elle exécute pour arriver à ce truc-là. C'était vraiment un dialogue permanent avec cet impératif de fond qui était que, quand même, somme toute, on est en train de faire un film d'arabe sur une arabe. Comment on navigue dedans, comment on grandit avec et comment on fait le truc le plus juste possible. Et c'était... Ouais, à un moment donné, ça devenait quasi intuitif, quoi. C'était, on était dans notre cabine de montage, comme Zina dans sa cabine de camion.
L'une de tes influences, références, je sais pas, en tout cas, tu l'as cité dans une interview qu'on conseille largement, de Ballast, quand même une tuerie. Lisez Ballast et cette interview, vraiment, quoi. Tu parles de Med Hondo.
Ouais.
Il y a eu un gros truc, d'ailleurs, une rétrospective, je crois, il y a quelques...
Carrément, ouais, et il y a un super podcast de... ma camarade Ager Ben Boubaker dessus.
Okay.
Et en plus, je crois que c'est... Moi, je connaissais vite fait un peu, mais je crois que c'est vraiment le travail d'Ager qui m'a fait plus replonger dans Med Hondo, par exemple.
Donc, c'est un cinéaste, scénariste, producteur et acteur originaire de Mauritanie. Il arrive en France à la fin des années 50. Hyper engagé. Il explore déjà les thèmes autour de la migration, du racisme, de la résistance coloniale. Il a aussi amené l'idée de faire les films un peu autrement, pour raison économique, mais aussi pour pouvoir dire les choses, en fait.
Il était dans un mouvement de cinéma qui commençait à naître sur tout le continent, que ce soit en Algérie, que ce soit au Sénégal. Il y avait un mouvement cinématographique auquel il était relié, qui avait commencé dans les années 50 à Paris avec Paulin Viérin, qui a fait le premier court-métrage. Ce film s'appelait Afrique sur scène. Ils étaient dans ce mouvement-là, c'est-à-dire un mouvement de à la fois raconter des histoires de gens qu'on ne voyait jamais, donc les invisibles, les émigrés invisibles qu'on cachait en fait quelque part, leurs propres histoires, douloureuses, différentes, le racisme, etc. Et puis cette vision politique globale, qui venait beaucoup de l'engagement marxiste de l'époque, qui était aussi une sorte de référent par rapport à ce qu'on peut faire, transformer la société. On était dans ce mouvement de contestation globale, où il fallait que chacun puisse trouver sa place en vrai. Donc lui, ça a toujours été son truc, c'est vraiment... Pousser les frontières et les bornes pour que les sociétés se croisent, se mélangent, se connaissent mieux. Or, c'était un des seuls témoins à l'époque, parce que les autres cinéastes, en fait, sur le continent, racontaient plutôt des histoires qui se passaient chez eux, ce qui est un peu normal. Med, il était un peu exilé, il était ici en France. Donc, il était un des seuls cinéastes, en fait, en tête de ligne, ici. C'était une sorte d'obligation, en fait, de raconter... la France qui connaissait lui, la France des immigrés, la France noire, et pourquoi cette société-là ne se mélangeait pas avec la nôtre, pourquoi il y avait tellement de racisme.
Mais il y a aussi beaucoup de provocation dans votre film. Est-ce que vous croyez au pouvoir de la provocation ?
Je ne sais pas. Vous savez, la provocation est un mot employé tellement à tort et à travers. Je ne sais pas s'il y a de la provocation. Ce que nous avons tenté de faire, c'est d'une part trouver les causes véritables au déplacement de l'immigration. D'autre part, essayer de faire honte aux racistes. Donc, il n'y a pas de provocation. En tout cas, je n'ai jamais pensé provoquer des choses. J'ai simplement tenté d'aiguillonner, de donner des causes et montrer les choses telles qu'elles sont sous des aspects différents et formels à la fois et critiques.
Il y avait ce côté aussi, comme Med ne connaissait pas les règles du cinéma, il n'y avait pas de limite. Donc, en fait, il se permettait des choses que personne ne se permettait.
Il y a beaucoup de choses à retenir. Il y a un terme aiguillonné, j'ai bien aimé, parce qu'il y a un truc de donner une direction, mais je crois que ça veut aussi dire piquer de manière douloureuse. Genre, ça fait mal aussi de montrer la réalité, quoi. Carrément. Quelque part, ça doit faire mal aussi, sinon les choses bougent pas, quoi.
Carrément. Bah, tu sais, en ce moment, regarde, là, je vais faire mon littéraire classique. J'ai tout le temps une citation du poète Lamartine dans la tête qui dit... Rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est songe et mensonge, illusion du cœur qu'un vain espoir prolonge, nos seules vérités sont nos douleurs. Et moi je crois que c'est ça que j'ai envie d'aller chercher, qu'en vrai quand je crée, je vais chercher ces douleurs-là et cette douleur-là pour la regarder, la préserver, la réparer et raconter ce qu'elle est, d'où elle vient, etc., etc. Il est trop bien le montage sur Maître Dondon. Moi, je me reconnais dans tout, hein, et notamment dans ce truc de... Et effectivement, quand on n'a pas fait d'école, quand on ne vient pas du cinéma, etc., c'est un espace de liberté. En fait, du coup, c'est juste qu'on a des jouets dans la main et on a un sens et on adapte ses jouets à ce sens et on en fait un peu ce qu'on veut. Et des fois, moi, je me retrouve à des endroits où j'ai l'impression qu'on me renvoie un truc de « je suis méga subversif », alors qu'en fait, c'est juste que je n'ai pas les codes. Du coup, évidemment que je vais être subversif.
Pour revenir aussi donc à cette interview de Ballast, on voit des photos splendides
chez moi,
toi en Palo.
Par le camarade Fabio, Fabio Boussigna.
Ouais, qu'on salue. Ça fait partie de ta trajectoire, ces lieux. Et je me suis demandé, on stigmatise souvent, tu vois, le « c'était mieux avant ». Parce qu'il y a un truc réac, profondément réac. Pourtant, toi par exemple, t'es dans le quartier « c'était mieux avant ». Est-ce que c'est lié à la nostalgie ou...
Tu sais, c'est quoi qui était mieux avant au final? Genre, je pense que c'est parce que c'était mieux avant, je crois, quand j'étais enfant, adolescent, et que j'avais pas trop peur de mourir. Et que du coup, mourir, mais au sens large, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire le monde qui m'entoure, c'est-à-dire les gens qui m'entourent, c'est-à-dire les lieux que je connais, etc., etc. Et je pense que quand je dis c'était mieux avant du quartier, c'est ce truc de dire « Ah, c'était mieux quand c'était pas en train de mourir » ou quand je réalisais pas que c'était en train de mourir ou quand ça m'avait même pas traversé l'esprit qu'un jour, ça allait plus exister.
On a besoin de participer pour les devoirs pour nos enfants. Ils ont dit c'est pas grave, ils vont faire les devoirs là-bas. Ça veut dire quoi? Les parents, ils ont plus rien à partager avec leurs enfants.
On enlève le collège, les parents, ils vont devoir réveiller le matin plutôt les enfants. Et ma question, c'est pourquoi ils veulent détruire le collège?
On ferait mieux d'abord de s'attaquer au fait qu'il y a des gamins qui peuvent pas dormir au chaud et sous un toit le soir. Et à chaque fois qu'on nous parle de mixité sociale, que ce soit à l'école ou au logement, c'est pour déplacer des populations pauvres. Et à chaque fois, ce qui est dit, c'est il faut absolument qu'il y ait des riches qui viennent vivre à côté de vous pour vous apprendre à mieux vivre. Et puis après tout, s'ils veulent vraiment faire de la mixité sociale, on n'a qu'à déplacer les élèves de Pierre de Fermat et de Saint-Sernin pour qu'ils viennent dans les collèges de Rennerie, de Bagatelle, de Bellefontaine, etc. Donc on ne comprend pas pourquoi ça se passe à chaque fois que dans un sens. Et pendant ce temps-là, on va quitter progressivement le Mirail. Et le Mirail, il va servir à qui? Il va servir, je vais le dire de manière caricaturale, mais c'est vrai, aux futurs cadres d'Airbus. Parce qu'ils seront plus proches du centre-ville. Et eux ont d'autres stratégies d'habitat par rapport aux habitants les plus pauvres. On pense que d'abord, il faut résoudre les problèmes de droits humains, de droit à la santé, à l'éducation et au logement des gens et au travail, plutôt que de vouloir déplacer des gamins qui, eux, n'y sont pour rien dans cette histoire. Voilà, merci.
C'est le plus mal, en fait, la parole aussi de gentrification, parce que la mort d'un quartier, c'est les immeubles qui tombent, la disparition de ses voisins, voisines. Il y a beaucoup de choses dans la mort d'un quartier, physiquement, oui, tout est détruit, reconstruit, évidemment gentrifié avec le remplacement par une autre population. Mais c'est quoi le plus douloureux? C'est ce que tu perçois à travers ta fenêtre carrée, ou alors les transformations que tu ne vois pas, en fait, là-bas, et que tu découvres quand tu reviens, qui sont aussi douloureuses?
Franchement, je ne saurais pas dire c'est quoi le plus douloureux. J'ai l'impression que chaque blessure, chaque douleur, chaque truc, il a son endroit et il tape à son endroit et c'est des douleurs avec des sensations différentes. Mais là, si je devais en citer une d'entre elles, je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est ce truc de... Enfin, je ne sais pas comment dire, on n'existera plus. Il y a un truc de collectivement, on n'existera plus. C'est du néant. Et du coup, je me dis, mais... Wow, combien avons-nous, combien d'autres quartiers à Toulouse, combien d'autres gens, combien d'autres populations, et tu l'élargis, combien de populations dans le monde, quand les colons sont arrivés, quand si ça, ça, etc. C'est ce truc de la douleur de pas se souvenir d'un truc dont j'aurais aimé me souvenir, et du coup d'être nostalgique d'un truc que j'ai pas connu, et du coup, et j'ai l'impression que du coup c'est une espèce de douleur qui appartient pas qu'à moi, c'est plus un truc de... Attends, c'est quoi? J'allais dire j'ai mal à mon collectif, mais c'est hyper nul comme phrase.
C'est
mais
pas de la Martine, ça.
Non. Non, mais c'est ce truc-là. Je pense que PNL a dû dire des trucs qui ressemblent un peu à ma douleur, tu vois.
Normalement, c'est j'ai mal à ma France. C'est souvent, tu dis ça.
Non, j'ai pas du tout mal à cet endroit-là. Non, mais quand... attends, c'est de quoi les paroles? Genre, je crois que c'est dans le Chang où PNL dit « Je reviendrai quelquefois regarder la porte sans toquer, sans sonner jusqu'à ma mort. Et peut-être qu'un jour, ça me permettra de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que j'aurai plus de lumière pour les nôtres. » Je pense que c'est ça, ma douleur.
Une chance qu'ils aient pas détruit mon bâtiment. Peut-être qu'un jour je pourrais montrer à mes enfants. Ou avec Tariq, papa, ça j'ai dit grand. Là où j'étais, un fils de Tibon. Là où j'avais la confiance, même avec les grands. Parce que mon papa, c'était le plus méchant. Laisse-moi toucher ce que t'as touché. Laisse-moi aimer ce que t'as aimé. Et dans les tons de la porte, j'aimerais passer. Pour juste une fois ressentir le passé. Revenir là où tout a commencé. Quand on était aussi heureux, je le sais. J'aimerais sonner à la porte et voir ton visage. Sans hérite sur ton visage. Te prévenir de ce qui te fera du mal. Pour ne pas te voir souffrir toute ma vie. Peut-être que ça me permettra de devenir quelqu'un d'autre. Peut-être que j'aurai plus de lumière pour les nôtres. Mais bon, j'suis drogué, capuché, la porte va pas s'ouvrir. Le présent, j'suis chaud, poteau, tu vas souffrir. Donc mes enfants, je leur mentirai que j'suis. Qui sort jamais comme moi, jamais dans les ténèbres. Sur cette chaise, dans ce rouge, je me sens si bien. Ça me rappelle quand j'avais des rêves à charge. J'aime trop mon jeu, tu comprends pas, pas le même amour. Grâce à mon Dieu, ils ont pas cassé ma première tour. Les paillassons après 15 ans comme mon poteau. Sauf que moi, je vais partir, lui restera dans le ghetto. Peur de changer de vie, peur de désillusion. J'aimerais revenir dans le passé, toquer à la maison. Ouvre-moi la porte, que je prenne ta règle dans les bras petits. Que je lui chuchote, ton frère sera toujours là, le petit. Il me prête pour un fou au grand cœur. Comme papa, mais en père. Et je reviendrai quelquefois regarder la porte. Sans toquer, sans sonner, jusqu'à ma mort. Et je reviendrai quelquefois regarder la porte. Sans toquer, sans sonner, jusqu'à ma mort.
Des nôtres, la lumière pour les nôtres, quoi.
Peut-être.
Toujours pour les nôtres, en tout
toujours
cas.
Toujours pour les nôtres, ça, c'est sûr.
Tu parles de mort, documenter le vivant, le présent, ça passe actuellement par tout filmer en permanence. Et t'essayes de créer de la pensée aussi par rapport à ça, à savoir ces nouvelles formes de documentation, des mouvements qu'on veut cacher. Je pense à des luttes urbaines qu'on considère comme des émeutes, tu vois, par exemple, les violences policières. C'est important d'un coup, l'image a une importance, une valeur au sens de mémoire et d'archives du temps présent qu'il faut savoir progressivement peut-être valoriser.
Oui, carrément. Et que ça fait un truc aussi où ça... Enfin, par exemple, moi, je trouve qu'il y a un immense travail qui n'a pas été fait, un coche qui a raté sur tout ce que peut faire Snapchat, tout ce qu'a pu faire... tout ce que peut-être fait TikTok aujourd'hui. Mais je pense surtout à Snapchat, parce que quand même, Snapchat, il y avait ce truc de... T'es à la fois en train de documenter et ça va disparaître, genre, dans les 24 heures. Mmh. C'est énorme pour moi en termes de comment ça modifie notre manière de penser les choses qui s'archivent, etc., sur des temps extrêmement courts, c'est énorme. Et qu'il y a ce truc du coup de tout ce qui n'est pas fait supposément, et je le dis grossièrement, par une personne, je ne sais pas, qui s'émane une caméra, qui sait exactement pourquoi elle fait les choses et qui sait exactement raconter la raison de pourquoi elle va filmer ce truc-là, etc., etc. Tout ça en dehors, c'est regardé comme par en haut et c'est rabaissé en bas, alors qu'en vrai, pour moi... Les jeunes qui filment des trucs en quartier au quotidien ou dans leur vie ou dans ce qui se passe, que ce soit une émeute, que ce soit un bâtiment, que ce soit juste quand ils sont posés en bas du bateau, j'en sais rien, ou chez eux, etc. C'est de la documentation. C'est de la documentation que personne d'autre n'est capable de fournir et de faire. Et c'est juste ce truc de... En tout cas, moi, comment j'arrive à décaler le regard en hiérarchisant pas les points de vue, et ça veut dire en hiérarchisant pas les outils qui sont utilisés pour le faire. Et de la même manière, tu vois, genre... En ce moment, c'est une des réflexions qui m'anime beaucoup, de me dire ce truc de, par exemple, aujourd'hui en France, pour moi, la réalité de ce que vivent les garçons noirs et arabes dans ce pays, c'est le rap qu'ils racontent. Je veux dire, il n'y a aucun autre endroit qui est raconté par les premières et premiers concernés, alors que dans tous les autres endroits théoriques, on va parler des premières et premiers concernés, qui parlent de c'est quoi leurs conditions de vie, et des garçons noirs et arabes de quartiers populaires, etc., c'est dans le rap. Et pour autant, aujourd'hui, le rap n'est pas, toujours pas considéré comme un outil d'archive, un outil poétique, un outil de lutte potentielle, etc. Il va être dévoyé, rabaissé, etc., etc., alors que c'est une ressource infinie de, bah, en fait... Le but, c'est quand même de se regarder les uns les autres et de se reconnaître.
Je suis qu'un arabe si je fais ma crime. Il me faut pas une XDDL. Ma mère veut comme une Ferrari. Ma nimi, tu veux un bébé. Et je m'en bats les couilles, je veux comme un Glock. Je veux comme un Glock à première vue. Mes harbis sont fous, mais t'inquiète, j'ai pas trop un Glock. Ils me font pas. Elle m'a merdé. Ma nimi, tu veux. Et je m'en bats les couilles. Comme première. Je suis qu'un arabe, si je fais un crime, ils me feront pas une XDDL. Ma mère veut cop une Ferrari, ma new bitch veut un BBL. Je m'en bats les couilles, je veux cop un Glock. Je veux cop un Glock, à première vue, mes harbis sont fous, mais t'inquiète, j'ai pas de cop un Glock. Je suis qu'un arabe, si je fais un crime, ils me feront pas une XDDL. Ma mère veut cop une Ferrari, ma new bitch veut un BBL. Je m'en bats les couilles, je veux cop un Glock. Je veux cop un Glock, à première vue, mes harbis sont fous, mais t'inquiète, j'ai pas de cop un Glock. Bitch on boycott, on est sous Oasis. Avec le gang on fait les kills, on assiste. J'arrive pas à dormir, j'fais un pilon à six. Ils sont remplis de sa copie, ma shit. À force ils ont oublié qu'ils sont gays, c'est bitch. Un qui s'agite pour la haut de ma shit. Mais c'est un marathon, faut pas perdre ses fils. Sa salope, j'ai dormi dans les escas. Salope, j'ai dormi dans le métro. J'ai fait des Yankees sur un Vespa, j'ai fait des Yankees dans le métro. Oubliez nos peines, on n'a pas les mêmes bœufs. Elle, c'est la bœuf de Dieu, elle qu'elle veut. Elle, mais STTL, c'est ce qu'elle vaut. Bâtard, on n'a pas le même tuteur, on n'a pas les mêmes vœux. Les opprimés, à droite, courrier que je reçois pour me dire je dois détaler. Les cops qui passent à 3h quand je suis à la fenêtre, libérable, les fox et pute. Un Glock, du cash, une AK, arrache, c'est pas moi. Y'a beaucoup de choses que je voudrais avoir, y'a beaucoup de choses que je voudrais pas avoir. Je suis qu'un arabe, si je fais un crime, ils me feront pas une XDDL. Ma mère veut cop une Ferrari, ma new bitch veut un BBL. Je m'en bats les couilles, je veux cop un Glock. Je veux cop un Glock, à première vue, mes harbis sont fous, mais t'inquiète, j'ai pas de cop un Glock. Je suis qu'un arabe, si je fais un crime, ils me feront pas une XDDL. Ma mère veut cop une Ferrari, ma new bitch veut un bébé. Elle m'en bat les couilles, je veux cop un Glock. Je veux cop un Glock, à première vue, mes harbis sont fous, mais t'inquiète, j'ai pas de cop un Glock.
Yeah.